Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce mardi soir. À la une de votre journal, il était encore question des polémiques qui rythment la campagne des européennes de la France insoumise aujourd'hui. Rima Hassan, numéro 7 sur la liste, et la chef des députés LFI, Mathilde Panot, était convoquée par la police pour apologie du terrorisme ce matin. Elle devait répondre de leur position ambiguë sur les attaques du Hamas. Et à l'Assemblée, lors des questions au gouvernement, ces dérapages ont encore été abordés. L'adolescent de 15 ans, seul suspect du meurtre de Matisse à Châteauroux ce week-end, va passer sa deuxième nuit en prison. On en sait davantage sur son profil et ce jeune Afghan n'a rien du genre idéal, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les préconisations des experts pour mieux gérer l'accès aux écrans des enfants. Un rapport a été remis au président de la République à ce sujet. Et puis l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député Renaissance Jean-Marc Zulesi, nous parlera entre autres du projet de loi d'orientation agricole examiné depuis aujourd'hui à l'Assemblée. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël, les positions de la France insoumise ne cessent de faire polémique. Souvent, cela ne dépasse pas le cadre du débat politique. Mais aujourd'hui, c'était différent. Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI aux élections européennes, et la chef des députés insoumis, Mathilde Panot, ont été entendues par des policiers dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour apologie du terrorisme. Et à la sortie du commissariat, les deux femmes n'ont pas changé de position. Bien au contraire. Alexis de la Fontaine.
Mathilde Panot donne le ton en s'attaquant directement aux enquêteurs.
À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants.
Après les auditions, les deux insoumises ressortent inébranlées, presque triomphantes, très confiantes à l'idée que les plaintes soient classées sans suite. Rima Hassan, kéfie autour du cou, reste droit dans ses bottes.
Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis. Jusqu'au bout, je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent.
Direction ensuite l'Assemblée nationale, où la France insoumise accuse le gouvernement de vouloir les censurer. Une honte, répond le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. Laissez faire la justice en toute indépendance et elle fera son travail. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Madame Panot qu'une autre.
Après Mathilde Panot et Rima Hassan, ce sera au tour de Jean-Luc Mélenchon de faire face à la justice à la suite d'une plainte pour injure publique déposée par la ministre Sylvie Retailleau.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et la France insoumise maintient également son soutien au blocage des universités organisé depuis la semaine dernière par des militants pro-Gaza. Après Sciences Po Paris la semaine dernière et la Sorbonne hier, des rassemblements ont été organisés à Sciences Po Lyon, Grenoble, Dijon ou encore Reims. La fac de Tolbiac dans la capitale était également occupée. Les cours ont dû être annulés cet après-midi. Outre-Atlantique, la prestigieuse université Columbia hausse le ton. La direction menace de renvoyer les étudiants pro-Gaza qui occupent un bâtiment du campus depuis la nuit dernière. Ça fait plusieurs semaines que des étudiants se mobilisent pour la cause palestinienne sur ce site. Le président américain Joe Biden estime que cette occupation n'est pas un exemple de manifestation pacifique. Et dans le même temps, à Gaza, justement, les combats se poursuivent pour le moment. Mais les pays médiateurs espèrent bien voir le Hamas accepter la proposition de trêve mise sur la table. 40 jours d'arrêt des combats assortis de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Israël. Anthony Blinken appelle le Hamas à accepter ses modalités sans tarder. Israël attendra la réponse du mouvement terroriste jusqu'à demain soir, mais le premier ministre Benjamin Netanyahou fait d'ores et déjà savoir qu'une offensive sur la ville de Rafah sera lancée, que cette réponse soit positive ou négative.
Europe 1 Nuit, Maëlle Hassani.
Châteauroux s'apprête à dire adieu à l'un de ses enfants. Une marche blanche sera organisée samedi prochain dans la ville berrichonne, là où cet adolescent de 16 ans a perdu la vie, poignardé à mort par un adolescent afghan de 15 ans. Le suspect s'apprête à passer sa deuxième nuit en détention provisoire. Il est mis en examen pour homicide volontaire. Et Maïalène Trémolet, ce garçon prénommé Rahman, avait la réputation d'être violent et menaçant.
Vous voyez là, moi j'ai un couteau Voilà, j'ai trop la haine.
Oui, vous venez d'entendre le son de cette vidéo postée par l'assaillant sur ses réseaux sociaux. Une vidéo qui n'est pas datée, sans lien avec l'agression de dimanche, mais dans laquelle il profère des menaces couteau à la main. Mineur afghan en situation régulière, né à Kaboul en janvier 2009, Rahman, 15 ans, était déjà connu des services de police. Décrit comme un enfant violent, il vivait avec ses parents, ses quatre frères et sœurs dans le quartier de Saint-Denis, à Châteauroux, au sein d'une famille également connue des forces de police. Arrogant et provoquant, selon la police locale, il proclamait régulièrement sur ses réseaux sociaux sa haine des policiers. Déjà mis en cause par le passé, ce ressortissant afghan avait été interpellé en février dernier en possession d'un couteau. Puis la semaine précédant la mort de Matisse, il avait été mis en examen pour vol avec violence en réunion. Placé sous contrôle judiciaire, il se serait ensuite vanté de sa garde à vue devant ses amis. Samedi dernier, après avoir perdu une battle de rap, Rahman aurait proposé à Matisse d'en découdre lors d'un combat qu'il aurait perdu. Il serait alors parti chercher un couteau pour se venger à la suite de sa défaite.
Maïalène Trémollet est la mère du suspect est également mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Elle est soupçonnée d'avoir violenté Matisse alors qu'il était déjà blessé. Le préjudice s'élève à au moins 560 000 euros. Un fourgon a été braqué ce matin à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Il contenait a priori des bijoux. Les auteurs, au nombre de 4, ont pris la fuite. 3 véhicules ont été incendiés. Une enquête est ouverte, notamment pour vol avec armes en bande organisée. Le chef de l'un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais accepte d'être extradé vers la France. Félix Binghi, interpellé au Maroc début mars, veut se défendre le plus rapidement possible dans l'Hexagone, selon son avocat. La Cour de cassation devrait valider la procédure la semaine prochaine, mais l'extradition pourrait prendre plusieurs mois. Vous écoutez Europe 1, il est 22h06. C'est un rapport remis au président de la République aujourd'hui et dont les conclusions vont forcément vous faire réagir, surtout si vous êtes parent. Un comité d'experts recommande d'interdire tous les écrans aux enfants de moins de 3 ans, puis d'en limiter strictement l'usage dans les années qui suivent. Et cela pour lutter contre ce qui est appelé l'hyperconnexion des plus jeunes, Louis Salé.
Oui, puis Internet sur son téléphone, c'est pas avant 13 ans. L'accès aux réseaux sociaux, pas avant 15 ans. À partir de cet âge-là, des plateformes dites éthiques dont les contenus sont modérés sont à privilégier. Pour Snapchat et TikTok, il faut donc attendre 18 ans. Ces préconisations précises s'appuient sur les risques sanitaires observés en fonction de l'âge, en particulier chez les tout-petits. Servane Mouton, neurologue, coprésidente de cette commission d'experts.
Sur le plan scientifique, la littérature est plutôt consensuelle sur le fait de dire que les écrans ne sont pas bons pour l'enfant de moins de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, il y a des alertes sur le plan neurodéveloppemental qui incitent à dire qu'il faut vraiment que ce soit des temps très restreints, parce qu'il faut intégrer aussi le problème de la vision et de l'exposition à la lumière bleue qui peut avoir des conséquences sur la rétine.
Et des effets importants sur le sommeil, la sédentarité, l'anxiété ont aussi été constatés.
Louis Salé, toujours d'après ce rapport d'experts, les adultes se doivent de montrer l'exemple.
Oui, pour les experts, il faut que les parents réapprennent à échanger avec leur enfant. Alors ça paraît choquant de dire ça, mais les écrans ont pris une telle place dans notre quotidien qu'il y a urgence, insiste Servane Mouton.
Il y a quelque chose qui s'est perdu ou qui est en train de se perdre. Il est temps de reprendre cette conscience de la nécessité de l'interaction et du lien et du jeu et de la discussion avec l'enfant dès sa naissance en fait.
En maternelle aussi, les enseignants doivent éviter tout type d'outils numériques et en primaire, les tablettes et ordinateurs individuels sont déconseillés.
Louis Salé, spécialiste éducation à la rédaction d'Europe 1. Le roi Charles III s'est rendu dans un centre de traitement contre le cancer aujourd'hui, près de 3 mois après avoir annoncé qu'il souffrait lui-même de cette maladie. C'est le premier engagement public honoré par le monarque britannique de 75 ans depuis début février. En football, la première demi-finale aller de la Ligue des Champions a lieu en ce moment et l'affiche est prestigieuse. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid. Pour le moment, après 50 minutes de jeu, ce sont les Madrilènes qui mènent 1-0. Et bien sûr, faites comme Olivier Delacroix, n'oubliez surtout pas l'autre demi-finale aller, Dortmund-Paris-Saint-Germain. Ce sera demain soir à 21h. Et puis le plus grand restaurant du monde va ouvrir à Saint-Denis l'été prochain. Ce sera le restaurant du Village Olympique à l'occasion des JO de Paris. Cette cantine géante sera gérée par l'entreprise Sodexo. 15 000 bouches à nourrir durant la compétition et des bouches de grands sportifs qui plus est. Martin Lange, vous avez pu visiter les lieux pour Europe 1 et l'endroit choisi par les organisateurs est particulièrement prestigieux.
Oui, dans la grande nef de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, une cantine XXL ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Franck Chanvas, directeur général de Sodexo Live.
Nous allons ouvrir le plus grand restaurant du monde qui servira 40 000 prestations par jour, du petit déjeuner jusqu'au dîner, pour 15 000 athlètes issus de 206 délégations.
Au menu, plus de 500 recettes imaginées par le chef Charles Guillois. Des classiques de la gastronomie française, blanquette de veau, brandade de morue, mais aussi des spécialités du monde entier, Charles Guillois.
L'idée, c'est de respecter aussi toutes les gastronomies du monde entier. Et c'est important pour nous qu'un athlète se sente comme à la maison pour qu'il performe au plus vite.
Dans sa tâche, il sera aidé par plusieurs grands chefs, notamment Alexandre Mazia, 3 étoiles au guide Michelin et spécialiste du poisson.
C'est un tapioca au bouillon de légumes qui va apporter ce côté suave, mais aussi cette gourmandise naturelle. Et ce merlu brûlé au saté, on a voulu mettre une empreinte du restaurant pour les athlètes. C'est aussi une fierté de représenter la France, de représenter son territoire, un savoir-faire, un patrimoine.
Alexandre Mazia qui sera également présent au village olympique pour servir son plat signature. Attention, édition limitée, 600 assiettes seulement.
Martin Lange dans le restaurant des athlètes au village olympique pour Europe 1. 22h10, place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député Renaissance Jean-Marc Zulesi.
Europe 1.
L'examen du projet de loi d'orientation agricole débute aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Ce texte, c'est l'une des réponses attendues au récent mouvement de colère des agriculteurs. Pour en parler, le député Renaissance des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi, est avec nous. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Vous êtes également, je le précise, président de la commission du développement durable. Avant de parler de ce projet de loi, revenons sur ces convocations par la police de Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI pour les prochaines élections européennes, et de la chef des députés insoumis, Mathilde Panot, dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. Vous estimez, Jean-Marc Zulesi, qu'elles doivent effectivement être poursuivies pour leurs propos sur les attaques du Hamas le 7 octobre, ou alors vous regrettez, comme certains commentateurs, une judiciarisation de la vie politique?
Non, lorsque on est élu, on n'est pas au-dessus de la justice. Il faut être en capacité de rendre des comptes. On a une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de la société. Les mots ont une valeur. Et je considère aussi que quand on ne condamne pas un mouvement terroriste comme le Hamas, qu'on laisse planer l'ambiguïté et qu'on attise la haine et la révolte à des fins tout simplement électorales, comme le font les élus LFI, eh bien je crois que c'est de leur responsabilité que de rendre compte, tout simplement.
Après Sciences Po et la Sorbonne au cours des derniers jours, Sciences Po Menton et le campus de Tolbiac sont à leur tour bloqués par des étudiants pro-Gaza. Toujours ce conflit au Proche-Orient qui rythme cette campagne des élections européennes et ces dernières semaines. Donc d'autres actions ont lieu également aujourd'hui à Lyon, à Grenoble, à Dijon. Le gouvernement est-il assez ferme face à ces blocages selon vous?
Oui, ils sont fermes. Ils sont fermes par rapport aux dérives qui ont été constatées dans les universités, mais il y a aussi une volonté d'appeler au calme, parce qu'apprendre est une liberté fondamentale. Je tiens à rappeler que nous sommes à l'approche des examens. La priorité, c'est le retour au calme, à la quiétude, pour que chaque étudiant puisse passer des examens en paix et que les étudiants puissent être mis de côté dans cette tentative d'instrumentalisation, notamment des députés LFI pour
une
nouvelle
fois. Et le calme à tout prix, quitte à signer cet accord que François-Xavier Bellamy, des Républicains, notamment qualifié d'accord de la honte, avec les étudiants, entre la direction et les étudiants, le calme à tout prix, quitte à peut-être se compromettre, comme l'ont dit certains?
Non, il n'y a pas de compromission. J'appelle simplement à de la fermeté, à de la clarté pour ne rien laisser passer, pour dénoncer les actes antisémites. Et il faudra continuer à le faire et à le faire avec abnégation, avec fermeté. Mais j'appelle aussi en même temps au calme parce que ce qui compte, c'est que aussi nos étudiants puissent étudier en toute quiétude. Et donc, il faut appeler à la responsabilité et aussi à l'accord trouvé par l'université de ne pas ajouter de la colère à la colère.
Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, s'est exprimée ce matin sur ces blocages. Elle exclut totalement de couper les subventions de l'État à destination de Sciences Po, contrairement à ce qu'a décidé Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Vous soutenez la position de la ministre?
Bien sûr, je ne veux pas laisser la victoire à une minorité parce que dans une grande majorité vous avez des étudiants qui veulent avancer, qui veulent créer leur avenir et je ne veux pas que ces étudiants-là soient touchés par une baisse budgétaire tout simplement qui serait la conséquence de personnes qui veulent tout simplement instrumentaliser, qui veulent tout simplement faire tomber le système. Donc moi je pense que la position de la ministre est une bonne position et nous devons être en soutien.
nos universités, parfois les plus prestigieuses, hein, si on parle de Sciences Po Paris ou encore de la Sorbonne, semblent, et on le voit au fil des semaines, gangrénées par l'extrême gauche. Est-ce que le prestige est toujours là? Est-ce que ces universités sont toujours des fiertés françaises à vos yeux?
Mais bien sûr, c'est des fiertés françaises reconnues dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle je parle d'une minorité qui veulent imposer leur loi, qui veulent imposer leur terreur. Rendez-vous compte que cette minorité refuse que des étudiants juifs rentrent en cours. Et donc ça, il faut savoir le dénoncer. Mais ce n'est pas une généralité. Il ne faut pas généraliser ça à l'ensemble de nos universités, à l'ensemble de notre enseignement supérieur qui est reconnu dans le monde entier. Donc moi, je veux aussi saluer le travail qui est mené par les directions de ces universités, par les professeurs qui font un travail exceptionnel, sans parler de notre recherche qui est reconnue là aussi dans le monde entier.
Ces dernières semaines, Jean-Marc Zulesi, plusieurs faits de violence impliquant des mineurs ont bouleversé les Français. Le dernier en date, c'était ce week-end à Châteauroux, le jeune Mathis, poignardé à mort par un autre adolescent en pleine rue. Le suspect était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de vol avec violence qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière. Est-ce que face à ce type de profil, il est encore entendable d'appliquer l'excuse de minorité ?
Moi, je pense qu'il faut que le sujet soit encore de nouveau mis sur la table. Il faut une fermeté très claire à la matière, à la fois au niveau de ces jeunes, mais aussi vis-à-vis de leurs parents.
Il y a un désaccord sur ce sujet entre le Premier ministre Gabriel Attal, qui est plutôt favorable à revoir ce principe de minorité dans certains cas, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui s'y oppose.
Ben moi, ma position est très claire. Il faut que ces jeunes-là puissent apporter une réponse de fermeté vis-à-vis de ces jeunes et aussi responsabiliser beaucoup plus fortement les parents, parce que ces actes-là ne sont pas acceptables. Et donc, nous devons avoir une réponse ferme, parce que forcément, ce genre d'actes attise les inquiétudes, attise les colères dans notre société. Il est de notre responsabilité d'y répondre fermement.
Jean-Marc Zulesi, je rappelle que vous êtes député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Revenons à ce projet de loi d'orientation agricole dont l'examen à l'Assemblée a débuté aujourd'hui en commission. Plusieurs séries de mesures ont déjà été dévoilées par le gouvernement depuis le début de l'année, mais ce projet de loi, est-ce que c'est la réponse définitive, celle qui va mettre un terme au mouvement des paysans ?
Non, ce n'est qu'une partie de la réponse, puisque ce projet de loi vient en complément de 80 mesures d'ores et déjà annoncées par le Premier ministre. Et notre volonté dans le cadre de ce projet de loi, c'est bien d'affirmer notre volonté de mettre en avant la souveraineté alimentaire, de plus produire sur notre territoire, de pouvoir être fier d'une nouvelle génération d'agriculteurs qui vont faire la fierté de notre pays par cette souveraineté alimentaire, être en capacité de mieux les former, notamment face aux défis du changement climatique, et puis surtout pouvoir simplifier la vie de nos agriculteurs qui donnent énormément de leur temps, de leur énergie et qui sont souvent freinés dans leur volonté de déployer cette souveraineté alimentaire. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga des annonces du gouvernement, mais c'est en grande partie les réponses que nous apportons aux nombreuses questions qui ont été posées lors des blocages des agriculteurs.
Ce texte est annoncé depuis plus d'un an maintenant par le président de la République. Les attentes sont donc immenses. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ce coup-là. S'il en ressort de l'eau tiède, les agriculteurs ne vous le pardonneront pas.
C'est vrai, il faut être en capacité d'écouter le message de nos agriculteurs. Je le disais, ils passent énormément du temps sur leur exploitation agricole, dans leur entreprise, et donc il est de notre responsabilité d'entendre l'appel de nos agriculteurs. Mais vous savez, c'est aussi l'objet national. Comment est-ce qu'on est en capacité de projeter notre pays dans l'avenir, tout simplement pour que nous puissions mieux nourrir notre population? Comment est-ce que nous anticipons face aux changements climatique, à l'adaptation au changement climatique, et c'est tout l'objet du texte de loi qui a commencé son étude hier en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé 14 nouvelles mesures pour les agriculteurs le week-end dernier, dont une enveloppe de 100 millions d'euros de prêts de trésorerie ou encore une meilleure retraite agricole à partir de 2026. Jeudi, le président de la République recevra les syndicats pour une réunion de travail. Vous n'y voyez pas une volonté de l'exécutif de court-circuiter le Parlement?
Pas du tout, parce que il y a bien une volonté de prendre le temps de débattre au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, mais alors on peut le regretter, mais c'est ainsi. Tout ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi des choses qui sont réglementaires, des choses qui sont budgétaires, où il faut pouvoir donner des réponses rapidement. Et donc, dans ce cadre-là, il est normal que le Premier ministre et le Président de la République soient à l'écoute aussi des agriculteurs et apportent des réponses le plus rapidement possible. C'est aussi le travail des parlementaires sur le terrain, main dans la main avec les services de la préfecture, avec les élus locaux, que de pouvoir mettre en application ce volet réglementaire. Donc, pas d'inquiétude, les parlementaires sont associés aux décisions qui sont prises au niveau national.
Jean-Marc Zulesi, merci beaucoup d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir. Je rappelle que vous êtes député Renaissance des Bouches-du-Rhône et président de la Commission du Développement Durable. Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Des pluies s'invitent sur une très grande partie du pays demain.
Oui, alors des pluies qui peuvent être plus marquées à certains endroits, notamment du côté de la Provence, vers le Pays Basque, dans le Limousin, vers la Sarthe aussi. Beaucoup de pluies sur les Alpes frontalières avec une limite pluie-neige à 2000 mètres et du vent sur les crêtes, ce qui favorisera les avalanches en haute montagne. Voilà, à noter une petite amélioration en cours d'après-midi le long de la côte atlantique avec le retour d'éclaircies, des pluies plutôt sous forme d'averses. En revanche, à l'est, là, ça va se corser avec des orages qui vont se déclencher dans l'après-midi. Midi d'abord en Bourgogne et sur une partie de la Franche-Comté. Et ces orages vont progressivement se propager en soirée, donc demain soir, vers la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France, et puis un petit peu plus tard dans la nuit vers les Hauts-de-France. On attend des chutes de grêle importantes, des intensités de pluie aussi qui risquent de l'être. Donc à surveiller, il y a simplement l'Alsace et la Lorraine qui feront figure d'exception avec finalement de belles éclaircies et beaucoup de douceur, ce qui va contraster avec la baisse notable des températures dans le sud-ouest. Donc un contraste assez saisissant avec 10 degrés à Tarbes au meilleur de la journée contre 26 à Strasbourg. Ailleurs, on notera par exemple 15 degrés au Mans, 17 à Nice et à Montélimar, 17 également à Bourges et à Rouen, 21 degrés à Paris ainsi qu'à Grenoble ou encore 22 degrés à Reims ainsi qu'à Lille.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h21 et c'est la Libre Antenne qui arrive comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin avec Olivier Delacroix qui est déjà dans ce studio et qui est prêt à vous répondre si vous appelez le 01 80 20 39 21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous ?
Très bien, ravi de vous retrouver.
Bah écoutez, moi aussi. Très belle interview encore, parfait. Vraiment, toujours aussi précis dans vos questions. Donc c'était parfait, on en apprend beaucoup avec vous. Et vous avez remarqué que vos fans le disent. Vous êtes une précision.
Mais très nombreux fans, évidemment.
Donc je suis très content de toutes ces belles paroles pour vous. Et puis, vous avez vu que le Bayern a renversé totalement la situation.
Et oui,
mène désormais 2-1 contre le Real de Madrid.
Si certains auditeurs, effectivement, s'intéressent au score de cette demi-finale allée de la Ligue des Champions, le Bayern mène 2-1 et on est à la 64e minute de jeu.
Exactement. Et vous nous annoncerez le résultat de ce match tout à l'heure, à 23h, quand vous reviendrez.
Tout à fait. À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Et à tous, bonsoir plutôt, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant installés chez vous, prêts à passer quelques minutes, quelques demi-heures ou peut-être quelques heures avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous le savez, cette libre antenne, c'est vous qui la faites. Ce sont vos voix qui résonnent aux quatre coins de la France grâce à Europe 1 qui 7 jours sur 7 vous offre ce moment, cet espace de parole qui est le vôtre, la libre antenne qui donne la parole aux plus invisibles d'entre nous souvent et fait résonner donc ces paroles importantes. Vous identifiez ici et là dans ces témoignages des moments de votre vie, des choses de votre vie. Et c'est comme cela que la Libre Antenne donne un certain goût des autres et un certain goût de cette vie qui passe et qui nous impose des épreuves parfois. Alors vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 quand vous le désirez pour me parler. Vous pouvez m'écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écran lettre majuscule, suivi d'un espace et que vous signez hein, surtout vos SMS pour que je puisse les lire à l'antenne. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr, vos lettres, vos courriers postaux donc à la Libre Antenne Europe 1, Olivier Delacroix ou Valérie Dormont, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Et puis il y a enfin notre groupe Facebook qui accueille aujourd'hui 8 nouveaux membres. Nous sommes 19 992, bientôt 20 000 dans cette communauté de la Libre Antenne où, je vous le rappelle, vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez échanger sur tout un tas de sujets. Alors des sujets qui passent sur la Libre Antenne et puis d'autres que vous amenez comme des petits rédacteurs en chef en fait, et je vois que vous êtes très prolifique dans ces échanges. Merci en tout cas pour votre fidélité. Bientôt 20 000 membres de cette communauté numérique de la Libre Antenne. Bravo. Voilà, bah écoutez, vous le savez, à tout moment vous pouvez décrocher votre téléphone, peut-être même commenter et venir échanger avec la personne qui nous appelle. Pour cela, vous composez le 01 80 20 39 21 ou vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot nuit en nous donnant votre numéro de téléphone et puis nous vous prendrons dans les plus brefs délais. Julia, Florian et Laurent sont là, ils sont en régie, ils attendent maintenant vos appels. Votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Pour débuter cette émission, nous accueillons Florent sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Florent.
Bonsoir Olivier, vous allez bien ?
Bonsoir, ça va et vous ?
Bah nickel, bon. Comme un mardi soir.
Comme un mardi soir. Alors, Florent, vous allez nous parler de vous. Vous avez 35 ans, vous habitez Nancy, et votre histoire, oui. Alors quand j'ai appris votre histoire, elle est particulière, elle est belle, en même temps... elle est teintée d'une épreuve certaine, mais je vais vous laisser vous raconter. Vous êtes l'auteur d'un livre aux éditions City, Putain, j'ai oui. survécu. Pour l'anecdote, oui. le titre de votre livre est aussi celui de votre toute première vidéo sur YouTube. Car,
vous avez la référence, bien joué.
Voilà, et parce que vous cartonnez sur YouTube en ayant un compte le parfait inconnu officiel, vous avez des vidéos qui ont été vues près de 700 000 fois. Vous avez d'ailleurs 700 000 abonnés, hein, ce qui est quand même pas mal. Oui. C'est devenu, je suppose, votre boulot. Ça, vous allez nous le raconter. Votre vie ne se résume pas à l'épreuve que vous allez nous raconter, bien évidemment.
Non, c'est vrai.
Vous avez d'abord été ingénieur en achat.
Exactement, exactement. Si on remonte, donc, je vais commencer l'histoire comme ça. On remonte en 2016, à l'époque... Donc j'étais ingénieur achat dans une société scientifique. J'avais une vie, je dis toujours une vie banale. C'est un peu triste comme mot, mais c'est vraiment, quand je fais le bilan maintenant, j'avais une vie totalement banale.
Qu'est-ce que vous appelez une vie banale en fait ? Dites-moi d'abord. Bah,
c'est-à-dire que j'avais fait des études, j'ai fait un master en école de commerce, j'ai obtenu ce job très rapidement, et donc j'allais au boulot du lundi au vendredi, et le week-end... Eh ben, j'allais mettre des tôles avec mes copains. Ouais, comme tout le monde, j'avais 27 ans, je travaillais toute la semaine comme un dingue, et le week-end, j'allais en boîte de nuit avec mes potes,
oui.
et j'avais pas de passion à côté. Zéro passion.
Zéro Juste passion, ça. Sauf la fiesta le week-end avec les copains, Exactement. Bien arrosé, bien fatigant.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Petite gueule de bois le lundi matin. Mmh. Des fois, jusqu'au mardi soir, hein, là, j'aurais pu, si on retourne en 2016, j'aurais pu encore avoir une petite gueule de bois du mardi. Et donc ça, c'était ma vie, donc en 2016, et j'ai appris, du jour au lendemain, que j'avais une tumeur cérébrale.
Alors, une tumeur cérébrale, vous l'apprenez d'ailleurs parce que vous avez une sorte, pas de malaise, mais votre vue se brouille, je crois. Hein.
Oui, 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 mais c'est fou, vous avez lu mon bouquin ou...
Bah, on bosse un petit peu, hein, quand même.
Ah, bien joué, alors. Effectivement, en fait, j'étais devant la télé, je commence à perdre la vue, donc un lundi soir, si je me souviens bien, je perds la vue et j'essaye d'expliquer à ma copine que je suis en train de perdre la vue, sauf que les mots qui sortent de ma bouche n'ont aucun sens. Je bafouille, ça veut rien dire.
D'accord.
Voilà ce que ça donnait.
D'accord.
En gros. Vous faites très bien.
Oui. Vous faites très bien.
Exactement.
Cette diction, elle m'a fait marrer, excusez-moi. Il n'y a pas que moi qu'elle doit faire marrer, ceci dit.
Bah, elle s'est dit, si vraiment c'est une blague, Florent, elle n'est pas drôle.
Non, ouais.
Et donc, on a eu peur tous les deux, hein. Elle m'a dit, on va aux urgences.
Oui.
On est arrivé aux urgences. Et en fait, le temps que j'arrive aux urgences, ça allait déjà beaucoup mieux.
D'accord.
C'est parti. J'ai quand même fait une batterie de tests là-bas, donc à Nancy, à l'hôpital central.
Mm-hmm.
Et ils ont fait un scanner de mon cerveau, de ma boîte crânienne, et ils m'ont rien dit de spécial. C'est une semaine plus tard, donc là on est en février 2016, c'est une semaine plus tard que je retourne voir donc un neurologue, et qui est vraiment très sympa, super cool. Donc j'y vais avec ma copine, on est en face de lui, pendant 20 minutes, super cool comme vous Olivier. Il me fait des petites blagues, tout va bien, et à un moment donné, il retourne l'écran de son ordinateur, et je vois donc le scanner d'un cerveau avec une grosse tache blanche sur l'hémisphère gauche, oui. De la taille d'une balle de ping-pong.
Oui.
Et il y a un silence. Un silence comme là, entre vous et moi.
Oui.
Et il me dit, c'est une tumeur cérébrale. Ok, je ne sais pas quoi lui répondre, d'accord, une tumeur cérébrale, super. Et le silence continue. Donc je me dis, attendez, dans ma tête, ça va à toute vitesse. Je me dis, ça veut dire que ça, donc je pose la question, c'est mon cerveau.
Oui.
Il me dit oui.
Mm-hmm.
Ça veut donc dire que j'ai, moi, une tumeur cérébrale. Oui.
D'accord.
Et donc là, on pourrait penser que d'un seul coup, comme dans un film, il y a une musique qui se met en route, les violons, je vais être ravagé, ça va être une terrible nouvelle. Pas du tout. Ah, moi, je suis à l'aise. Je ne me rends absolument pas compte de la situation. C'est-à-dire qu'on m'annonce quand même une nouvelle qui peut potentiellement bouleverser la vie.
Potentiellement, moi, oui. Une tumeur cérébrale, c'est quelque chose de très grave, on est d'accord.
Eh bien, moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était une tumeur cérébrale.
Oui.
C'est-à-dire que j'en avais jamais entendu parler. Donc, j'ai commencé de manière totalement innocente à lui poser plein de questions. Qu'est-ce que c'est une tumeur ? Question totalement basique, hein, qu'est-ce que c'est une tumeur ? Et il m'explique. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui allait grossir par-dessus le cerveau, par exemple.
Oui.
Mais non, pas du tout. C'est vraiment à l'intérieur du cerveau. C'est une partie qui est en train de moisir. C'est fort comme terme, hein, qui est en train de moisir, qui est en train de nécroser.
Oui.
Et donc, il m'explique qu'en gros, il faudra enlever cette partie du cerveau. Et quand il me dit ça, je me dis, attendez, c'est possible de vivre avec une partie du cerveau au moins ? Là, ça peut paraître pour beaucoup de gens totalement normal de dire oui, on peut vivre avec une partie du cerveau en moins, mais pour moi, non. Enfin, j'étais en train de me dire, donc on peut enlever une partie du cerveau. Waouh, c'est dingue. La seule image, le seul souvenir que j'avais de ça, c'est bien des années avant, j'avais eu un reportage sur quelqu'un qui avait pris une balle en pleine tête. Il avait perdu la moitié de son cerveau, tout l'hémisphère. Il continue à être debout, à marcher, à parler. Donc c'est le premier souvenir qui m'est remonté, c'était celui-là. Et je me dis, effectivement, c'est assez dingue, mais on peut retirer une partie du cerveau et continuer à vivre après ça. Donc j'ai continué à lui poser plein de questions comme un gamin, hein. J'ai posé beaucoup, beaucoup de questions.
Est-ce que vous lui avez posé si cette tumeur était cancéreuse, si elle pouvait...
Sur le moment, je lui ai plutôt dit un mot que j'avais déjà entendu. C'était le mot malin et bénin. Est-ce que c'est une tumeur maligne ou bénigne ?
Oui.
Il m'a juste expliqué qu'on ne pouvait pas savoir à ce moment-là.
D'accord, oui, il n'y avait pas eu assez d'examens sur cette tumeur pour l'expliquer.
Qu'en gros, il le découvrirait après l'opération, qu'ils allaient faire une analyse de tout ce qui serait retiré. Mais sur le moment, il ne pouvait pas me dire exactement la gravité de tout ça. Il m'avait juste dit que c'était peut-être un peu trop mal situé, mal placé pour être opéré à Nancy. Donc voilà, on en était resté là, mais... Et il m'avait expliqué aussi que ce que j'avais vécu une semaine avant, c'était une crise d'épilepsie.
D'accord.
Hein, que j'ai perdu la vue, j'avais du mal à parler. Pour moi, une crise d'épilepsie, on tombe par terre, on a les yeux qui révulsés, on convulse, on bave, tout ça, tout ça.
Oui.
Et en fait, il y a énormément de types de crises d'épilepsie différentes. ça peut être une crise d'épilepsie partielle, par exemple. On ne perd pas connaissance. Donc, c'est ce que j'avais fait. Mais il m'a fallu une semaine pour comprendre. Il m'avait donné des médicaments à l'époque, sans m'expliquer pourquoi, à l'hôpital, et je ne les avais jamais pris. Donc là, je lui ai expliqué, voilà, il faudrait me refaire une ordonnance, monsieur le neurologue, parce que je n'ai jamais pris ces médicaments-là. Et donc, c'est plusieurs mois plus tard que je suis parti à Montpellier me faire opérer.
Oui.
Pour me retirer donc, cette tumeur qui faisait la taille donc, d'une balle de ping-pong.
Donc, qui est une grosse tumeur, hein, quand même.
Y a de tout. Hein. Y a des gens qui ont... Après, on compare toujours aux autres, hein, mais ça pourrait évidemment être beaucoup plus impressionnant. Mm-hmm. Et il y a des gens qui se sont fait retirer des parties beaucoup plus... Ouais. Hein, des tumeurs beaucoup plus impressionnantes et qui vont très, très bien aujourd'hui. Mm-hmm. Donc,
Ma tante est décédée d'une tumeur au cerveau qui l'a embarqué en 3 mois de temps, mais qui était D'accord. extrêmement mal située. Elle était dans le fin fond du cortex, donc inopérable. Et elle est partie dans des conditions terribles. Quelqu'un qui était très saine, qui ne buvait pas d'alcool, qui ne fumait pas, qui mangeait bio. Donc ce sont de vraies saloperies, hein, ces tumeurs.
C'est vrai. Et puis si on était capable d'expliquer pourquoi ça arrive dans la vie de quelqu'un et pas de quelqu'un d'autre.
Exactement, mais c'est la mauvaise loterie. Hein. On ne peut pas savoir, je crois que votre spécialiste a dû vous dire qu'on n'en connaît pas l'origine, hein, de cette tumeur.
Non. Ils m'ont dit que j'avais peut-être vu sa vitesse d'évolution, parce qu'on a fait du coup 2 IRM espacés de plusieurs mois, qu'elle évoluait très lentement, que je l'aurais peut-être depuis au moins une dizaine d'années, même depuis la naissance.
Incroyable. Voilà,
on ne sait pas.
D'accord.
Donc, je n'avais pas plus d'informations que ça. C'est surtout qu'aussi, j'avais aucun symptôme. Hein, la petite crise d'épilepsie que j'ai faite, c'était un signal d'alarme de mon cerveau.
Oui.
Mais moi, j'avais aucun symptôme, aucune douleur, pas forcément de maux de tête, pas de migraine. Hein, j'ai des gens des fois qui me disent j'ai des migraines, j'hésite à aller faire des contrôles, j'ai peur d'être comme toi, d'avoir une tumeur. Mais moi, j'avais aucune migraine. Je ne la ressentais absolument pas.
C'est fou, vous n'aviez jamais eu donc de migraine, en fait. Vous ne souffriez pas du tout.
Ça a déjà dû m'arriver un peu comme tout le monde.
Oui,
c'était pas des vraies migraines qui me faisaient mal quotidiennement. Non, ça, tout ça, j'avais pas. Et on appelle ça asymptomatique, sans symptômes. Il y a juste à un moment donné, quand ça commence à prendre un petit peu trop de place dans le cerveau trouve un moyen de nous l'avertir, d'avertir tout ça. Moi, c'était une petite crise d'épilepsie et ça arrive souvent que ce soit via des crises d'épilepsie. Mmh. Donc, je suis parti me faire opérer à Montpellier le 4 juillet 2016. Et c'est marrant parce que, le 4 juillet, c'est la Saint-Florent, c'est mon prénom. Donc, j'ai fait cette opération-là et c'était une opération éveillée. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable qu'on puisse opérer quelqu'un alors qu'il est réveillé.
Incroyable. Surtout
pour retirer une partie du cerveau. Hein.
Pourquoi, c'est une opération éveillée?
Alors en fait, à chaque fois que le neurochirurgien s'apprête à retirer une partie du cerveau, il envoie une toute petite décharge électrique sur la partie du cerveau qu'il va retirer pour s'assurer qu'on ne perd pas une faculté.
D'accord.
La petite décharge électrique sert à, on va dire, annihiler ce petit bout de cerveau de fonctionner normalement. Pendant quelques secondes, ça ne fonctionne pas et donc il s'assure qu'on est toujours capable de parler, de bouger. C'est-à-dire que moi j'étais allongé sur un lit, je devais bouger le bras droit, tout le reste était attaché, je devais juste bouger le bras droit et j'avais en face de moi un ordinateur avec des dessins dessus et les dessins duraient environ 4 secondes environ et je devais dire à chaque fois interpréter le dessin que je voyais devant moi. Donc si c'était par exemple une girafe, je devais dire ceci est une girafe, hop, c'est une maison, ceci est une maison, et comme ça le neurochirurgien s'assure que je suis capable toujours de parler et d'interpréter les petits dessins que j'ai en face de moi.
Je fais un petit aparté. On vous a expliqué comment fonctionnait le cerveau à l'époque?
Dans les grandes lignes, on m'a expliqué. Moi, j'avais lu un livre très très bien du neurochirurgien qui m'a opéré. Il s'appelle Hugues Dufaux, D-U-2-F-A-U. Il y a des gens qui voudraient un peu plus en découvrir donc sur les tumeurs cérébrales et les opérations éveillées. Il a sorti un livre qui s'appelle L'erreur de Broca. Pourquoi l'erreur de Broca? Parce que depuis toujours, il y avait un médecin qui s'appelait Paul Broca et qui avait expliqué que le cerveau, en gros, a des tiroirs avec dans chaque tiroir une faculté. Mmh. Et l'erreur de Broca, c'est la partie du cerveau qui gère le langage. Et ce médecin avait découvert qu'en gros, si une tumeur touchait la zone de Broca, la personne perdait la parole. Sauf qu'en réalité, le cerveau est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Il est capable, et moi c'était mon cas, j'ai une tumeur cérébrale qui s'est développée donc dans cette zone. Moi, ça touchait les émotions, la mémoire et l'ouïe. Et en fait, vu que cette tumeur évoluait doucement, eh ben, toutes ces facultés se sont déplacées dans le cerveau et, pour que je puisse garder ces facultés-là. Ça a été, donc, Hugues Dufaux a été le premier à pouvoir
prouver
expliquer
ça.
Qu'on D'accord. pouvait, ouais, que c'était beaucoup, que le cerveau était beaucoup plus complexe que ça et que c'était une erreur de croire depuis 150 ans que, qu'en gros, en gros, c'était juste des tiroirs, quoi. Non, ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et lui, donc, Dufaux a été l'un des premiers à opérer de manière éveillée les tumeurs comme les miennes.
Oui,
donc, incroyable. Ce qu'on appelle des tumeurs de bas grade, qui évoluent doucement.
C'est assez incroyable. Voilà. Je vous fais un petit aparté, en fait, dans les yeux d'Olivier, consacré aux troubles obsessionnels compulsifs, m'avait permis de faire un tournage avec un témoin qui souffrait donc de ces TOC, à qui, de manière, il avait pu bénéficier d'une expérience sur, je crois, une quinzaine de patients où on leur avait mis des sondes dans le cerveau, vous voyez, qui était relié à un boîtier, donc inséré dans la poitrine, qui balançait des décharges électriques, en fait.
Oui. Vous voyez,
pour des décharges électriques, pour bien évidemment stimuler le cerveau. Et il nous avait expliqué comment marchait le cerveau, en fait. Et il nous avait expliqué que c'était des ondes de l'électricité qui tournaient dans le cerveau en permanence et que c'était, enfin, que le cerveau était un truc extraordinaire, une machine, un ordinateur incroyable, mais c'était électrique, en fait. Donc, quand vous me parlez de petites décharges électriques qu'on envoie dans des parties du cerveau pour voir comment ça réagit, bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Voilà, je voulais en faire part à nos auditeurs et nos auditrices. Je vous laisse continuer. Donc, ce professeur Dufaux est le premier à opérer
de manière éveillée.
De manière éveillée.
C'est ça qui est assez dingue.
Ce qui doit être assez impressionnant, non, pour vous, non?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi, quand il a sorti son livre, il venait de le sortir quelques mois avant que je me fasse opérer, donc je l'ai acheté, je l'ai lu, l'erreur de Broca, et tout est expliqué tellement simplement dans son livre. C'est un livre qui est à la première personne, et tout le long, en gros, il reçoit une patiente et il explique tout de A à Z. C'est tellement bien expliqué, on voit que c'est pas écrit pour les médecins, mais c'est vraiment pour les patients. Et j'ai tout compris. Je suis allé rencontrer donc à Montpellier, j'étais détendu. Il n'avait pas besoin de m'en expliquer plus. J'avais l'impression déjà tout connaître. Mmh. Et il l'a ressenti lui-même. Il m'a dit, oh la vache, vous êtes... Enfin, il n'a pas dit, oh la vache, mais il m'a dit, vous êtes vraiment détendu. Parce qu'on s'est bien entendu, mais pas à ce point, quand même.
Écoutez quand même, Florent, à l'annonce de cette tumeur, même si vous êtes novice en la matière, vous avez quand même, depuis le début de cette épreuve, vous avez été exemplaire. Vous avez fait preuve d'un calme assez olympien, je trouve. Vous ne vous êtes jamais affolé?
Non, c'est en vrai, ouais, je m'affolais pas. C'est vrai. Je vous cache pas, j'ai juste pleuré quand je suis allé annoncer à mes parents, évidemment.
Oui, bien
parce
évidemment,
que ça, c'est toujours dur de devoir annoncer une mauvaise nouvelle à ses parents, parce que c'est pas dans la logique des choses de dire voilà, papa, maman, je suis malade. Moi, c'est d'ailleurs quand j'ai raconté tout ça dans le bouquin, j'ai de nouveau pleuré en écrivant que je l'avais annoncé à mes parents, parce que les parents veulent pas enterrer leurs enfants.
Non,
quoi.
Bien évidemment.
Ce que je viens de dire est très violent d'ailleurs.
Oui, donc, voilà. Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus violent, vous savez, de perdre un enfant. Mmh. C'est, je crois, l'épreuve la plus violente qu'on puisse vivre.
C'est vrai. Mmh. C'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de péter l'ambiance.
Non, vous ne pétez pas l'ambiance. quand vous connaîtrez mieux mon histoire, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais vous avez fait preuve d'un calme, d'une sérénité assez étonnante pour votre jeune âge.
Oui, oui. Exactement.
Est-ce que ça vous a servi, à votre avis, alors bien évidemment, pas dans la manière d'affronter cette épreuve, mais de la combattre, cette épreuve?
Oh, je pense que oui. J'avais une certaine innocence. J'y allais en ayant confiance en moi. Je m'étais dit, cette opération va très bien se passer. J'avais confiance en Monsieur Dufault, le neurochirurgien.
Oui.
Et moi, je me suis dit, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que d'un seul coup, il y avait une sorte de sens dans ma vie. Quelque chose qui venait d'arriver. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, il se passe un petit rebondissement dans ma vie. Elle va devenir intéressante. Elle est plus lambda, cette vie-là.
Oui.
Donc,
elle est sacrément voilà. Bousculée d'un seul coup.
Exactement, bousculée.
On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, mon cher Florent, puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Ça marche.
À tout de suite.
Europe 1. C'est donc désormais officiel, le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison ?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes, comme si c'était une guerre en fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement ? Juré ?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
Et à ce même numéro, vous pouvez aussi vous confier à Pascal Pro, qui a rejoint Europe 1 depuis la rentrée, vous le savez, avec deux rendez-vous quotidiens. D'abord de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews, l'heure des pros, que vous êtes des milliers à ne pas rater chaque jour. Et puis ensuite, vous retrouvez Pascal Pro de 11h à 13h pour vous donner la parole. Parce que, comme le dit Pascal, vous le savez, le plus important, c'est vous. Et l'humain est très important pour Pascal, donc n'hésitez pas, téléphonez au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europe 1, et on vous rappellera, vous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, où vous indiquez bien évidemment que vous voulez intervenir dans l'émission de Pascal Pro, de 11h à 13h, Pascal Pro et vous. Florent, l'annonce à vos parents a été sans doute le moment le plus triste, vous nous dites, mais après il vous a fallu affronter cette épreuve et cette opération. Donc, vous allez à Montpellier vous faire opérer. Là, il y a une toute puissance du chirurgien qui vous opère. Il a votre vie dans les mains. C'est quelque chose de rencontrer des gens comme ça qui pratiquement toutes les semaines sauvent des vies et dont on n'entend pas parler, en tout cas bien moins que d'autres personnes qui sont plus dans la lumière. Ce rapport avec cet homme, quel était-il ?
Je lui ai donné toute ma confiance. Il avait toute ma confiance. J'ai vraiment adoré cette personne et je l'adore toujours. C'est quelqu'un qui a énormément d'empathie et quand il prend un patient, il le suit. Il me l'avait dit. Il me suivra jusqu'à sa retraite. Donc j'espère qu'il va prendre une retraite très tardive.
Ouais, ouais.
Voilà. donc oui, comme je disais, il m'a opéré. Donc j'étais de manière éveillée. Cette opération en soi a duré 6 heures. Bon, pendant les deux premières heures, en réalité, j'étais endormi parce que là, je lui sers absolument à rien. Il ouvre la boîte crânienne. Là, j'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Et ensuite, je suis réveillé. Et pendant 2 heures, donc, on me pose des questions en face de moi. J'ai un ordinateur et je dois essayer d'interpréter l'image que je vois. Ceci est un parapluie, ceci est une maison. Je bouge le bras droit. Et lui, pendant tout ce temps-là, il retire le plus possible la partie touchée donc par la tumeur.
Oui.
Il n'a pas pu tout enlever parce qu'à certains moments, il voyait très bien que d'un seul coup, j'arrivais plus à bouger le bras ou alors je ne reconnaissais plus l'image en face de moi. Et c'est là la nécessité en fait, d'opérer de manière éveillée parce qu'il s'est assuré évidemment que, parce que des fois, la partie qui est touchée par la tumeur est encore utilisée par le cerveau. Et c'est là l'importance donc, d'opérer de manière éveillée. Tout s'était très bien passé. Il m'a endormi. Et donc, je me réveille après tout seul, Hein, c'est pendant 24 heures, la personne doit rester toute seule. Il n'y a pas besoin de voir qui que ce soit parce que là, pendant 24 heures, c'est compliqué. Moi, quand je me suis réveillé, j'arrivais plus à parler correctement. Enfin, c'était un sacré foutoir.
C'est quoi en fait? C'est le cerveau qui se réorganise. On vous a expliqué ce que c'était?
En gros, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a mis un gros coup de batte en pleine gueule là. En gros,
c'est ça.
J'étais tout gonflé, je comprenais rien, j'arrivais pas à parler correctement. Mais c'est ce qui se passe après ce type d'opération là. Il l'avait évidemment mis dans son livre, donc je le savais, mais j'avais sous-estimé quand même l'énorme gueule de bois qu'on se tape après ce type d'opération. Et quand j'ai ouvert les yeux et qu'il y avait mes parents, donc 24 heures plus tard. Quand j'ai vu mes parents en face de moi, je me suis dépêché de leur dire que ils m'avaient raté. Pour moi, c'était ils m'ont raté. C'est pas possible. J'arrive pas à parler. Ils m'ont raté. Donc j'ai pris tout mon courage pour aller leur dire papa, maman, ils m'ont raté, mais pas avec cette voix-là, avec une voix d'enfant de 6 ans. J'ai toujours comparé ça à une voix d'enfant de 6 ans parce que je parlais au ralenti.
Vous vous en souvenez avec une encore voix. Aujourd'hui?
Ouais, parce que mes parents m'avaient gardé des souvenirs, ils m'avaient filmé ou même moi j'en avais conscience que je parlais au ralenti. Hein. Je disais non, ils m'ont raté. Voilà, je parlais à peu près comme ça.
Oui, d'accord, on a l'air.
Comme un mec complètement bourré, voilà.
Le flip.
Donc ils étaient rassurés, hein, parce qu'ils avaient aussi lu le bouquin, et ils m'ont dit « Ne t'inquiète pas, Florent, tout s'est bien passé. » Et rien que ces quelques mots m'ont mais alors rassuré. Là, j'ai pu me rendormir, j'ai pu rêver, j'ai pu... Là, j'étais bien. Là, j'étais bien dans le lit, ils m'avaient vraiment rassuré. Et quand M. Dufaux est revenu me voir donc après l'opération dans ma chambre, je lui ai demandé une dédicace de son livre. Et je trouvais ça très drôle, parce que je pense qu'il n'avait pas eu l'habitude de recevoir beaucoup de patients. Qui lui demanderait une dédicace de son livre, vu qu'il l'avait sorti que quelques mois avant. Et il m'avait mis un joli petit mot en me disant que j'avais fait preuve de courage et de force. Voilà. Et parce que moi, j'ai rien lâché. À un moment donné, pendant l'opération, en gros, j'ai perdu la vue. Ça arrive. Hein. Il me l'avait dit, vous êtes la seule personne à être capable de nous dire si vous perdez la vue. Là, on a vraiment besoin de vous. Oui. Autant si vous avez pu bouger le bras, si vous n'avez pas reconnaître l'image qui est en face de vous, ça, on peut tous le voir.
Oui.
Mais si vous perdez la vue, vous êtes vraiment le seul. Et effectivement, à un moment donné, j'ai perdu la vue. Je lui ai dit, monsieur, je ne vois plus rien. Donc, il a arrêté d'envoyer une petite décharge électrique. Et dès que c'est revenu, là, j'ai hurlé. J'ai dit, là, la vue est revenue, c'est bon, on lâche rien, on continue.
Incroyable.
J'ai gueulé, quoi.
Incroyable.
Ah bah oui, moi j'étais déterminé, hein. Je me croyais dans un film Rocky, quoi.
Ça l'avait
marqué aussi. En me disant, j'ai opéré plus de 600 patients et j'ai jamais entendu quelqu'un hurler ça dans une salle d'opération. Donc il me l'a laissé sur son livre et j'étais très honoré. Donc voilà. Sauf que j'ai pas eu de chance. Voilà. Là, je vous fais un deuxième petit rebondissement.
Oui.
Parce que donc je suis rentré chez moi à Nancy. Jusque-là, tout allait bien. J'allais voir des orthophonistes pour réapprendre à parler correctement français. Parce qu'en gros, j'ai perdu quand même une capacité de ma langue maternelle, une capacité de langage.
Oui.
Donc j'étais obligé au quotidien de retravailler ma langue. Et même encore à l'heure actuelle, ça s'entend pas spécialement, mais parfois je confonds le masculin et le féminin. Et surtout là, quand on passe sur Europe 1, avec le petit stress d'être avec vous, Olivier,
ça se passe pas trop mal pour l'instant. Hein,
c'est vrai, ça va.
Mais vous n'avez pas perdu un truc. Je vais peut-être vous donner un truc qui va peut-être vous inspirer pour un de vos sketchs. C'est que vous dites oui comme les gens de l'Est. Vous dites oui. Vous ne dites pas oui comme nous, vous dites oui, 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 oui.
Et on dit 20. Voilà.
Voilà. Donc c'est que les choses vont plutôt bien.
C'est vrai.
Et pour l'instant, je vous dis, je n'ai pas remarqué la moindre chose, enfin en tout cas qui m'a écorché l'oreille ou qui a attiré mon attention. Donc vous me disiez que vous n'avez pas eu de chance.
Non, parce que donc je suis revenu à Nancy, je prenais des cours chez les orthophonistes, j'allais voir les orthophonistes et plus le temps passait et moins ça allait en réalité. Je souffrais de plus en plus, j'avais mal au crâne, j'avais des hallucinations, et c'était de pire en pire. Et en fait, on a découvert que j'avais une infection nosocomiale. Nosocomiale, c'est pour dire parce que c'est arrivé pendant que j'étais à l'hôpital, donc à Montpellier, à cause de l'opération. Et j'ai développé donc une infection de la boîte crânienne. Et on a mis du temps à s'en rendre compte, parce que c'est le 26 juillet que je suis parti. Donc je m'étais fait opérer le 4 juillet. C'est le 26 juillet qu'on découvre que j'ai eu une infection nosocomiale. Et le 26 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà.
Ouais.
Donc je me suis fait opérer une deuxième fois, ce coup-ci à Nancy, mais en urgence. Là, ils m'ont pas endormi. Il fallait m'opérer parce que là, c'était vraiment ma vie qui était en jeu, vu que j'avais une infection de la boîte crânienne. Oui. Et quand ils me l'ont annoncé, ça a été dur parce que, autant la première, j'avais eu le temps de me préparer mentalement, mais là, ils m'ont dit, on ne sait pas ce que vous avez, on ne sait pas quel type d'infection vous avez, on va vous opérer en urgence parce qu'on n'a pas le temps d'attendre et on vous enlèvera la boîte crânienne, on ne vous la remettra pas. Ok. Pourquoi on ne me la remettra pas? Si c'est la boîte crânienne qui est infectée, on ne peut pas vous la remettre parce que ça redévelopperait l'infection.
Oui.
Merde. Et là, je n'étais pas trop d'accord, mais est-ce que j'avais le choix? Non.
Non. Parce qu'elle était contaminée. On va vulgariser les choses, c'est ça?
C'est ça, contaminée. Moi, je vais le vulgariser à chaque fois. Je ne suis pas neurochirurgien, donc d'accord. Je vulgarise. Mm-hmm. Mais ouais, ils m'ont annoncé ça. Et ils m'ont dit, on ne vous la remettra pas tout de suite, la boîte crânienne. On va attendre 3 mois. D'accord. Donc je me suis dit, attendez, c'est-à-dire que je vais avoir la peau qui flotte sur le cerveau pendant 3 mois avant qu'on me remette une prothèse à la place? Mm-hmm. Oui. Et quand je me suis réveillé, donc l'opération a eu lieu, et quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite touché ma boîte crânienne, elle était toujours là, et le neurochirurgien de Nancy m'a expliqué, en fait, j'ai regardé votre boîte crânienne, elle était propre, elle avait l'air propre, donc j'ai le remise, on verra bien dans 3 mois.
Ah oui, d'accord, ok.
Et ça, c'est une vraie phrase qui marque, hein. Waouh. Wow.
Ouais, oui, parce que c'est
plus... Et ils l'ont laissé, donc moi...
Ouais, d'accord.
Moi, je suis content, ils me l'ont laissé, donc nickel. Et là, voilà, là, ça s'est mieux passé après la seconde opération. J'ai pu retrouver une certaine vitalité. J'ai perdu ma voix d'enfant de 6 ans. J'allais mieux. Et c'est cette épreuve-là, elle a forcément changé ma vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas de passion à côté de mon boulot. Et là, je me suis demandé, donc je suis resté quand même 1 mois à l'hôpital de Nancy sous perfusion pour essayer de combattre cette infection.
Oui.
Donc j'ai eu tout le temps de réfléchir, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie, mon petit Flo? Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien me lancer dans la vidéo. Mm-hmm. J'aimerais bien tenter d'être drôle.
Oui.
Parce que moi, je sais que je faisais rire mes potes. Mm-hmm. Mais on fait tous rire nos potes, ils sont subjectifs.
Mm-hmm. C'est vrai.
Donc moi, je me suis dit, et si j'essayais de faire rire des gens qui ne me connaissent pas. Mmh. Et depuis 1 an, en fait, je m'étais inscrit sur Twitter. Je faisais des petites vannes sur Twitter, je sortais des petits tweets. À l'époque, on ne devait même pas dépasser 140 caractères, c'était encore l'époque-là. Et dès mes premiers tweets, j'en avais certains qui avaient 100 retweets, 1000 retweets. J'en avais même un qui avait atteint 17 000 retweets. Donc j'étais quand même content de réussir à faire rire des gens qui ne me connaissent pas, qui sont totalement objectifs avec moi. Et à l'époque, je m'étais trouvé un petit surnom parce que j'avais pas forcément envie qu'on voit que je postais des tweets quand j'étais encore au boulot ou en pleine réunion.
Oui.
Donc je m'étais appelé le parfait inconnu.
Mm-hmm.
Je suis un parfait inconnu, comme tout le monde. Je fais mes blagues dans mon coin. Mais c'était quand même au fond de moi de me dire qu'est-ce que j'aimerais bien essayer de faire rire les gens. Et quand j'ai affronté tout ça, que j'ai découvert que j'avais une tumeur, que je me suis fait opérer, je me suis dit, mec, t'as plus rien à perdre, t'as plus d'excuses à te trouver, maintenant tu te lances dans les vidéos, mm-hmm. t'as envie de montrer ta tête, je le savais, ça devait être au fond de moi, t'as envie de faire rire les gens, lance-toi. J'ai attrapé un téléphone, je me suis filmé, j'ai sorti ma première phrase, salut, c'est moi le parfait inconnu. Et j'ai appelé cette phrase, putain, j'ai survécu. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, je parlais pas du tout de moi, hein, je parlais pas du tout de mon opération, de quoi que ce soit, je m'étais moqué de Gilles Verdez qui avait pris une gifle par Joystar, et qui avait exagéré tout ça, et donc j'avais appelé cette vidéo en me moquant de lui, qu'il avait fait croire qu'il avait survécu à une guerre, donc c'était pour ça que je l'avais appelé comme ça. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'en ai sorti une deuxième qui s'appelait Raclette, et celle-là, j'ai eu un peu de chance, parce qu'elle a fait 1 million de vues sur Facebook.
Ouais. C'est dingue, non?
Ouais, clairement, parce que
Elle était drôle, elle était très drôle de votre point de vue. Je ne l'ai pas vue, hein. Je vous pose la question vraiment tout à fait. Je ne l'ai pas vue.
N'allez pas la regarder. Alors non, je plaisante. Moi, je la trouvais marrante. Ouais.
Ouais,
c'est un humour très très farfelu. J'ai toujours aimé ce terme loufoque, farfelu. C'était le tweet d'un ami à moi qui s'appelle Xavier Le Gall. Mm-hmm. Et sur Twitter, il s'appelait La Mort La Vraie.
Oui.
Et il a un humour très noir. J'aimais beaucoup cet humour noir. Et il m'avait dit, tiens, tu te lances dans les vidéos. Tiens, je te file un de mes tweets raclette. En gros, tu proposes à quelqu'un de manger raclette. La personne regarde dans le ciel. elle te dit bah on va pas manger une raclette, il y a le soleil, il fait trop chaud. Donc tu la sommes, tu la mets dans le coffre, tu roules jusqu'en Norvège, là tu ouvres le coffre et tu lui dis raclette. Et là elle peut pas refuser, on est sous la neige. D'accord. Et je trouvais visuellement cette blague très drôle, je l'ai transformée donc en vidéo de 30 secondes, j'ai posté ça sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter à l'époque, puisque Instagram, TikTok, on en est bien loin en 2016. Oui. Donc j'ai posté ça et sur Facebook elle a fait 1 million de vues en une semaine. Et c'est cette vidéo-là qui m'a donné clairement envie d'en faire plein d'autres. Oui. Et dans cet humour un peu fou, un peu loufoque, un peu farfelu. Voilà.
Et toujours des vidéos de 30 secondes où vous en faites des plus longues?
Eh bien, au tout début, voilà, je faisais des vidéos très très courtes, avec mon téléphone, et petit à petit, je me suis mis à faire évoluer tout ça, à m'acheter une caméra, enfin un appareil photo, à faire des vidéos de plusieurs minutes, puis même de 10 minutes. Là, j'en ai sorti une il y a quelques mois qui s'appelle Le Hater, qui dure 23 minutes, court-métrage.
On va continuer à en parler juste après l'info, d'accord? On se marque une petite pause et puis on se retrouve.